VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Villon à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 17 janvier 2023. Au Burkina Faso, le nombre de femmes enlevées par des présumés djihadistes passe à 80.
Véritablement, c'est une situation qui suscite beaucoup de craintes et beaucoup d'interrogations, justement au sein des populations.
Nous retrouverons dans la partie magazine les précisions d'Aubin Guébré, rédacteur en chef de la chaîne de télévision BF1. En Somalie, 11 soldats ont été tués dans un attentat des Shebab contre un camp militaire. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est attendue au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud pour une tournée africaine. L'Ukraine met fin aux recherches de survivants d'IPRO après un tir de missile. Le bilan est de 44 morts. À suivre également dans cette session d'information de la Minute Éco, Madagascar dans le top 5 des meilleures destinations de voyage pour l'année 2023 selon le magazine Forbes. Et les sports, deuxième journée aujourd'hui du championnat d'Afrique des Nations Total Energy Algérie 2022. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Les 12 et 13 janvier dernier, environ 80 femmes ont été enlevées à Arbinda, dans le Sahel burkinabé. Selon des sources locales, ce raft massif a eu lieu aux abords du village, alors que ces dames se rendaient en brousse pour chercher de quoi manger. Le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour les retrouver saines et sauves. On retrouve à Ouagadougou notre correspondant Kader Traoré.
Au départ, c'était une cinquantaine de femmes qui avaient été enlevées les jeudis et vendredis derniers par des groupes armés. Ce mardi, des sources locales indiquent qu'elles sont plus de 80 captives. Selon les témoignages, c'est d'abord une première vague de 41 dames qui se rendaient en brousse les jeudis pour chercher de quoi manger, qui sont tombées sur des hommes armés. Dans leur débandade, trois ont pu s'échapper, nous a confié au téléphone un élu local. Malheureusement, l'information sur cet enlèvement n'a pas circulé dans la commune, si bien que le lendemain matin, c'est-à-dire le vendredi, deux autres groupes de femmes tombaient elles aussi dans les filets des hommes armés et dans les mêmes conditions, cette fois au nord de la localité. Dans un communiqué, le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, a confirmé ces enlèvements. Dès leur disparition signalée, des recherches ont été entreprises en vue de retrouver l'ensemble de ces victimes innocentes, saines et sauves, peut-on lire dans le communiqué. Mais jusque-là, les captives restent introuvables malgré le ratissage des forces de défense et de sécurité, ainsi que des supplétifs de l'armée, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Selon un élu local de la commune, Arbinda manque de vivres et les femmes sont obligées d'aller chercher des fruits sauvages et des feuilles en brousse pour nourrir leurs enfants. Aujourd'hui, la situation est très critique à Arbinda parce qu'il n'y a plus rien à manger depuis un certain temps. Ça vaut au moins deux semaines qu'il n'y a plus rien dans les boutiques. Ce que l'on peut trouver, c'est du sucre et aujourd'hui, la population d'Arbinda se nourrit de fruits sauvages, affirmait Issouf Maïga, un ressortissant d'Arbinda, sur les ondes d'une radio de la place. La commune étant sous blocus des groupes armés, le dernier ravitaillement remonte à fin novembre et cela a été fait par voie aérienne. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Les islamistes Shebab ont lancé aujourd'hui une attaque meurtrière contre une base militaire au nord de la capitale somalienne. C'est après que le gouvernement a annoncé avoir remporté contre eux une victoire historique en leur reprenant une ville côtière stratégique. Rosine Monizero.
Des chiffres contradictoires ont été avancés par différentes sources sur le nombre de soldats tués lors de cet assaut contre le camp militaire de Hawadle, situé à environ 60 km au nord de Mogadiscio. Odoa Youssouf Rage a déclaré que 5 soldats, dont un officier, sont morts, tandis qu'un commandant d'une milice alliée au pouvoir a annoncé 11 soldats tués. L'attaque a été revendiquée par le groupe Al-Shabaab, qui affirme avoir tué 63 soldats lors du raid et saisi des véhicules militaires et des armes. Le gouvernement somalien a indiqué que les forces fédérales et les combattants locaux ont capturé une troisième ville dans l'état de Galmudug des mains des militants. C'est la troisième ville prise par les forces gouvernementales en 2 jours. Lundi, elles ont annoncé avoir repris Harardere, une ancienne plaque tournante des pirates, et Galkad.
Dans le sud du Sénégal, un soldat a été tué en Casamance et 4 autres ont été blessés lors d'une opération contre des rebelles à la frontière avec la Gambie. L'incident est survenu lundi dans le département de Bignona où l'armée mène depuis plusieurs mois des opérations contre les rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, qui réclame l'indépendance de cette région entre la Gambie et la Guinée-Bissau. La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, entame aujourd'hui une tournée africaine qui la mènera au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Une tournée qui vise à renforcer les liens entre les États-Unis et le continent africain. Mouamadou Mfa.
Le voyage de Mme Yellen se situe dans le sillage du récent sommet États-Unis-Afrique de Washington. Le président Joe Biden avait promis d'approfondir les liens économiques entre les États-Unis et l'Afrique et de définir de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement. Il avait annoncé la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars avec les pays africains. Ce voyage fait également suite à l'engagement du département du Trésor des États-Unis auprès des dirigeants africains. En octobre dernier, Janet Yellen avait notamment accueilli 10 ministres des Finances africains lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Lors de son voyage, Mme Yellen prévoit de rencontrer des responsables gouvernementaux et du secteur privé pour discuter de l'énergie, de la sécurité alimentaire, des questions de dette et des investissements dans les infrastructures. Contrairement à la Chine, les États-Unis proposent des investissements durables et de qualité qui ne pèsent pas sur les pays bénéficiaires en raison d'un endettement insoutenable, a déclaré un responsable du Trésor.
L'ancienne chef du cabinet présidentiel en Tunisie a été condamnée aujourd'hui par contumace à 14 mois de prison en lien avec des enregistrements sonores contenant des propos désobligeants envers le président Kais Saied. Selon les médias, juriste de formation, Nadia Akacha avait été nommée conseillère juridique au sein du cabinet présidentiel à la fin 2019 avant de devenir en janvier 2020 la directrice du cabinet du président Saied. Elle l'accompagnait dans tous ses déplacements en Tunisie comme à l'étranger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les secours ukrainiens ont annoncé aujourd'hui la fin des opérations de recherche et de sauvetage dans les décombres d'un immeuble détruit par une frappe samedi à Dnipro et dont le dernier bilan s'établit à 44 morts et 20 disparus. Firmin Kouyaouida.
Les opérations de recherche et de sauvetage sur le site de la frappe de missile dans la ville de Dnipro ont été achevées, ont indiqué les services de secours ukrainiens sur la messagerie Telegram. 44 corps ont été retrouvés, 79 blessés et 20 personnes sont toujours portées disparues. Pendant près de 4 jours, les secours ont essayé de trouver des survivants sous les décombres de l'immeuble effondré. 39 personnes ont été sauvées. Samedi, un missile a éventré un immeuble du quai de la Victoire à Dnipro, ravageant plus de 200 appartements selon Kirilo Timoshenko, un responsable de la présidence ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis lundi que chaque personne responsable de ce crime sera identifiée et traduite en justice. La Russie a nié toute implication dans les carnages et a rejeté la faute sur les Ukrainiens. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a évoqué lundi une tragédie pouvant être due, selon lui, à un tir de la défense anti-aérienne ukrainienne.
Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui de nouvelles sanctions à l'encontre du Bélarus en raison de la répression constante exercée par le régime du président Alexandre Loukachenko au moment où s'ouvre à Minsk le procès par contumace de l'opposante en exil, Svetlana Tikhanovskaya. Pour répondre à ces violations des droits humains, le département d'État annonce prendre des mesures de restriction de visa à l'encontre de 25 individus pour leur implication dans la sape de la démocratie au Bélarus, précise le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dans un communiqué. L'Allemagne s'est trouvée aujourd'hui un nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius, un élu régional aguerri qui fera ses grands débuts au gouvernement à un poste très exposé au moment où le pays est pressé de fournir plus d'armes lourdes à l'Ukraine. Ce social-démocrate de 62 ans, quasi inconnu au niveau national, va remplacer Christine Lambrecht qui a démissionné lundi après une série de bévues. En France, le président Emmanuel Macron va mettre à l'épreuve jeudi sa capacité à mener sa politique avec une journée de grève contre son projet de relever l'âge légal de la retraite à 64 ans qui va engendrer d'importantes perturbations dans le pays. Le gouvernement français veut faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans et avancer à 2027 l'obligation de cotiser 43 ans pour percevoir une pension complète. Deux mesures qui cristallisent le rejet de l'opinion publique d'après les sondages. Et puis, la Chine, pays le plus peuplé du monde où vivent un sixième des habitants de la planète, a vu l'an passé sa population baisser. Du jamais vu depuis 6 décennies, cette chute liée notamment au coût de la vie pourrait se poursuivre jusqu'à la fin du siècle selon des démographes. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mohamed Oumfa.
Le magazine économique Forbes a révélé que Madagascar était dans le top 5 des meilleures destinations touristiques pour l'année 2023. S'est félicité lundi le ministère malgache du tourisme. L'île touristique de Sainte-Marie, située dans l'est du pays, a également été classée au quatrième rang des meilleures destinations dans le monde sur 50 lieux de voyage et destinations émergentes, a ajouté le ministère. La présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Odile Renaud-Basso, a réitéré l'appui de la banque à la Tunisie. Citée mardi par la presse locale, elle a fait savoir que la Banque européenne avait investi une enveloppe d'environ 864 millions d'euros en Tunisie, dont 25% sous forme de financement injecté dans le secteur privé. Au mois de novembre dernier, la banque appuyait quelque 5 à 9 projets sur le sol tunisien. L'économie égyptienne est en difficulté selon les données officielles. Avec une livre égyptienne divisée par 2 depuis mars, l'inflation a grimpé en décembre à 21,9% et les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 37,9%, la plupart des biens étant importés. Avant la récente dévaluation, 60% des 104 millions d'Égyptiens étaient sous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale.
L'espoir avec Timothée Donangbaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Jean-Roger.
Deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations Total Énergie Algérie 2022. Le pays hôte, l'Algérie, affronte ce soir l'Éthiopie au stade Nelson Mandela d'Alger.
Et nous sommes rendus à la 42e minute, score 0-8 partout. Avantage psychologique aux jeunes Algériens, fort des 3 points arrachés à la Libye en match d'ouverture vendredi et qui évoluent devant leur public. Nouvelle défaite pour les Libyens qui se sont inclinés 3-2 face aux Mozambicains en premier match au stade Nelson Mandela. Les jeunes Libyens, vainqueurs du CHAN 2014, avaient pourtant reçu un coup de pouce du défenseur mozambicain Albino Muchanga alias Chiku qui a marqué contre son camp à la 23e minute. Au retour des vestiaires, les Mozambicains rétablissent l'équilibre par Alexandre à la 74e minute, puis prennent contrôle du match grâce à John à la 80e minute et Hacking à la 84e minute. Les Libyens sauvent l'honneur en réduisant l'écart par Saltou à la 93e minute. Score final 3-2 pour les Mozambicains qui peuvent ainsi envisager sereinement la suite de la compétition.
La deuxième journée se poursuit demain avec les matchs RDC Côte d'Ivoire et Sénégal-Ouganda.
Avec 0 point au compteur, les jeunes Ivoiriens tenteront de trouver leur marque dans cette compétition. En face, l'équipe de la RDC, qui compte 1 point, voudra augmenter son capital. Pour leur part, les Lionceaux sénégalais qui ont arraché 3 points face à la Côte d'Ivoire voudront continuer sur cette belle lancée. Ils auront en face les jeunes Ougandais avec un précieux point glané contre la RDC en première journée et des jeunes Ougandais qui espèrent accroître leurs chances d'avancer dans cette compétition.
Une importante victoire judiciaire à signaler pour le football féminin.
Et oui Jean-Roger, la footballeuse islandaise Sara Björk Gunnarsdóttir a obtenu du tribunal du football de la FIFA que Lyon, son ancien club, lui paie la totalité de son salaire pour 2021. Une décision de cette juridiction datant de mai 2022 et consultée par l'AFP condamne en effet Lyon, l'Olympique lyonnais, à verser environ 82 000 euros à la joueuse islandaise dont le salaire avait brusquement chuté à partir d'avril 2021 jusqu'à la naissance de son fils en novembre 2021. Le syndicat mondial des joueurs, FIFPro, qui a accompagné la joueuse dans ses démarches judiciaires, a salué une décision historique. Pour protéger les joueuses qui décident d'avoir un enfant en cours de carrière, la FIFA impose notamment un congé de maternité d'au moins 14 semaines, dont 8 après la naissance, rémunéré au minimum les 2/3 du salaire contractuel de la joueuse.
Un mot de tennis pour terminer avec la forte chaleur et la grosse pluie qui se sont invitées ce mardi à l'Open d'Australie à Melbourne.
Les organisateurs ont dû interrompre pendant 3 heures les matchs se déroulant sur les courts extérieurs. Et alors que la nuit tombait, une averse s'est abattue sur le complexe, abrégeant 11 matchs dont 9 n'avaient pas encore commencé. Parmi les résultats du jour, la victoire de Novak Djokovic, 3-7 à 0, face à Roberto Carballes Baena, Djokovic qui compte 9 titres de l'Open d'Australie. Et chez les dames, Arina Sabalenka a défait Teresa Martinkova en 2-7, 6-1 et 6-2.
Page de sport VO Afrique, signée Timothée Donangmaï. Ne partez nulle part ailleurs, restez avec nous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden fait l'objet d'une enquête pour savoir s'il a mal géré les documents classifiés. Sur cette affaire, démocrates et républicains sont d'accord pour dire qu'une enquête est nécessaire. Veronica Balderas Iglesias de la VOA explique le récit avec Firmin Kouyaouida.
Une visite très médiatisée à Atlanta pour célébrer l'héritage de Martin Luther King Jr. n'a pas détourné l'attention sur la gestion de documents classifiés par le président Joe Biden. 6 pages classées secrets ont été trouvées récemment dans sa bibliothèque privée. D'autres lots classifiés ont été trouvés à son domicile de Wilmington, dans le Delaware, et au Penn Biden Center, ici même à Washington, D.C. La situation est comparée à la découverte de plus de 300 documents, dont certains marqués top secret, dans la résidence de l'ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride. Un procureur spécial a également été nommé pour enquêter sur cette affaire. Tout en soulignant les principales différences avec le cas Trump, le parlementaire démocrate Adam Schiff a déclaré à ABC This Week que l'enquête sur Biden est appropriée.
J'aimerais savoir que c'était ces documents. J'aimerais savoir quelle est l'évaluation, s'il y avait un risque d'exposition et quels seraient les préjudices et si des mesures d'atténuation doivent être prises.
La Maison-Blanche affirme qu'elle va coopérer avec les enquêteurs qui cherchent à comprendre s'il y avait une intention d'enfreindre la loi ou simplement une négligence. Toujours sur ABC, le représentant républicain Don Bacon a souligné les risques potentiels que représente la mauvaise manipulation d'informations sensibles par quiconque, quelle que soit son affiliation politique.
Avoir des informations top secrètes à compartiments spéciaux dans votre garage ou dans votre lieu de villégiature ou dans la zone où les ressortissants chinois ont accès est tout à fait répréhensible. Et nous ne devrions pas nous contenter de pointer du doigt l'autre partie.
Ce serait un crime plutôt qu'une violation à la sécurité si le président Biden retire et garde sciemment des documents classifiés sans autorisation. Dans l'émission Meet the Press de NBC, l'ancien procureur général adjoint des États-Unis, Rod Rosenstein, a expliqué ce qu'il faut attendre du processus comme un président en exercice ne peut être mis en accusation.
L'avocat spécial doit évaluer les faits et le droit, examiner les politiques du ministère de la Justice et faire une recommandation au procureur général pour savoir si des poursuites sont justifiées ou non. C'est ensuite au procureur général de décider d'appliquer ou non la politique du ministère de la Justice.
Le sénateur démocrate Raphaël Warnock, qui s'est tenu ce week-end aux côtés du président Biden en Géorgie, a déclaré à ABC qu'une chose est certaine.
Personne n'est au-dessus de la loi, donc je suis heureux de voir le ministère de la Justice faire son travail et je vais laisser ce travail se poursuivre.
De son côté, la commission de la Chambre des représentants sur le contrôle et la responsabilité, dirigée par les républicains, souhaite que la Maison-Blanche fournisse un registre des visiteurs de la résidence de Joe Biden, ainsi que des documents et des communications liées aux endroits fouillés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'inquiétude grandit sur le sort des dizaines de femmes enlevées la semaine dernière dans le nord du Burkina Faso. Les autorités faisaient état d'une cinquantaine de femmes kidnappées par des hommes armés. L'un de nos correspondants au Burkina et d'autres sources parlent de 80 femmes. Les appels à leur libération se multiplient. Pour en savoir plus, Abdourahmane Dia a joint à Ouagadougou Aubin Guébré, rédacteur en chef de notre chaîne partenaire BF1.
C'est vrai que jusque-là, les chiffres officiels parlent d'une cinquantaine de femmes enlevées 12 et 13 janvier dernier dans la localité d'Armida, donc région du Sahel. Et donc, jusqu'à présent, officiellement, les chiffres n'ont pas évolué, même si d'autres sources parlent en tout cas de 80 femmes. Au jour d'aujourd'hui, les autorités maintiennent ce chiffre d'une cinquantaine de femmes enlevées. Il faut dire que c'est une situation en tout cas inédite au niveau du Burkina depuis l'avènement de cette crise sécuritaire. Et véritablement, c'est une situation qui suscite beaucoup de craintes et beaucoup d'interrogations justement au sein des populations.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de la situation à Arbinda, dans le nord du Burkina, où ces enlèvements ont eu lieu?
Oui, il faut dire qu'aujourd'hui même dans la ville d'Arbinda, il y a eu une manifestation de population pour réclamer surtout un ravitaillement en vivres, parce que justement, vous savez, c'est également peut-être parce que ces femmes ont dû sortir de la zone sécurisée parce qu'elles étaient allées pour la cueillette de fruits sauvages justement pour se nourrir, parce que vous savez, cette ville est sous blocus. Et justement, donc, les populations ont manifesté aujourd'hui pour demander à l'autorité de faire quelque chose dans ce sens pour éviter justement que les femmes soient obligées de sortir de la zone sécurisée pour aller à la recherche de quoi nourrir la famille. Et donc, on vient d'apprendre qu'un ravitaillement effectivement a débuté aujourd'hui même par voie aérienne.
C'était Aubin Guébré, rédacteur en chef de notre chaîne partenaire BF1.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les incidents violents liés à des groupes extrémistes ont été beaucoup plus nombreux dans le nord du Bénin l'année dernière que le gouvernement ne l'a officiellement reconnu. Le pays est devenu une nouvelle ligne de front pour les djihadistes. À Natitingou, Henry Wilkins a rencontré dans ce reportage des témoins d'attaque. Le point avec Rosine Monizero.
La violence djihadiste déborde hors des frontières du Burkina Faso vers le nord du Bénin. Un habitant d'un village dans l'extrême nord du pays, qui s'exprime sous anonymat, témoigne.
Bénin, la sécurité est vraiment bizarre. Je dirais que l'ambiance n'est plus la même depuis un certain moment. La population, nous avons ajouté par rapport à ce qu'on entend.
Si les terroristes ne sont pas encore venus dans son village, pour d'autres habitants de la zone frontalière, la violence engendrée par la situation sécuritaire au Burkina Faso, au Niger et au Mali est déjà une réalité. Cet homme, qui a également demandé à garder l'anonymat, raconte qu'un groupe de djihadistes a traversé son village et a cherché refuge dans la maison d'une femme. Lorsqu'elle est revenue du marché et leur a demandé de partir, ils l'ont tué.
Parce qu'ils cherchaient un endroit où se réfugier pour pouvoir continuer le chemin après.
Ok.
C'est là, elle a été frappée. Elle ne pouvait pas s'écrire, elle ne pouvait pas rester tranquille parce qu'en voyant des armes et des hommes prendre chez elle, elle a pris peur et puis elle a commencé à crier. Donc, en lui disant de se taire, elle ne voulait pas être tuée.
Selon les analystes, la violence se propage du Burkina Faso vers les États côtiers comme le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le Bénin semble être particulièrement touché avec plus d'attaques au cours du second semestre de 2022, selon les données du Armed Conflict Location and Event Data Project. À la question de savoir si le gouvernement béninois a fait assez pour arrêter la propagation de la violence, Arnaud Ouenou, expert en sécurité nationale, répond.
Il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et donc, en conséquence, on a peut-être péché, les autorités béninoises et ou des États côtiers avaient peut-être péché dans un attentisme aveugle qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'on pouvait quand même imaginer que cette situation pouvait dégénérer et pouvait prendre de l'ampleur et d'espace jusqu'à déborder sur des frontières côtières, ce qui malheureusement est arrivé.
Le gouvernement a envoyé un grand nombre de troupes en renfort dans le nord pour accompagner les gardes forestiers militaires du parc national de la Pandjari, qui a été la cible d'attaque. La réponse militaire a certes un impact, mais un rapport récent de l'Institut Klingendael, un groupe de réflexion basé aux Pays-Bas, a révélé que beaucoup plus d'incidents violents se sont produits dans le nord du Bénin l'an dernier que le gouvernement ne l'a officiellement reconnu. L'an dernier, un journaliste européen et plusieurs confrères béninois ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de faire un reportage sur la situation dans le Nord. Le cabinet de conseil qui a organisé des ateliers avec les communautés pour renforcer la résilience face à l'extrémisme violent affirme que de nombreux habitants ont trop peur pour parler. Annelies Bernard, conseiller stratégique.
Beaucoup de commentaires que nous avons reçus étaient que n'importe qui pourrait être un terroriste en ce moment. Nous n'avons aucune idée de qui est qui, mais nous avons peur de parler de ce que nous voyons et de ce qui nous inquiète. La création d'un espace sûr est donc une sorte de point de départ.
Le gouvernement du Bénin n'a pas répondu à la demande d'interview de la VOA sur le sujet.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les prévisions alarmantes du FMI qui prédit une économie mondiale difficile pour 2023. Alors que les décideurs politiques et économiques se réunissent cette semaine à Davos au Forum économique mondial, le coût de la vie continue de peser sur le quotidien des populations les plus vulnérables. Un rapport du Forum établit que cela risque de créer de fortes tensions dans de nombreuses régions du monde avec des millions de personnes basculant dans la grande pauvreté. Comment stopper l'inflation mondiale et éviter une récession? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Des veillées funèbres au studio d'enregistrement, tel est l'itinéraire atypique du Mbolé, un genre musical issu des quartiers populaires de Yaoundé. Faisant désormais partie du paysage culturel camerounais, cette musique offre à la jeunesse un exutoire et un moyen de raconter sa réalité. Découvrons avec Dili Diko.
En Col d'Ongo, quartier pauvre de Yaoundé et berceau du Mbolé, Lionel Malongo Belinga, alias Petit Malo, chante avec les membres de son groupe.
Parce que de temps en temps, on se retrouve comme ça avec les gars et on essaie de chauffer un peu le quartier comme à la bonne époque. Donc on a commencé avec la joie et on va toujours passer le temps dans la joie. Donc dès qu'on a un peu de temps, on se retrouve comme ça et on s'amuse.
Musicien et ambassadeur de ce genre musical qui a émergé au début des années 2000 avant d'exploser sur la scène musicale du pays en 2016, Lionel Belinga explique qu'à l'origine, l'objectif du Mbolé était d'aider les familles à surmonter le deuil.
Le Mbolé déjà c'était une partie de plaisir qu'on donnait chaque jeudi et vendredi dans les veillées, dans les événements. On se faisait plaisir, on donnait du plaisir à ces familles éprouvées qui avaient deuil, qui étaient touchées. Alors on essayait de les faire un peu oublier le chagrin en animant de minuit jusqu'au matin, en faisant des improvisations sur un beat du djembé et des claquements de mains. Aujourd'hui, accompagné de certains musiciens et de l'apport du studio, c'est devenu un rythme musical au Cameroun.
Aujourd'hui, le Mbolé est un cri du cœur de la jeunesse camerounaise qui, à travers cette musique, partage ses états d'âme, ses difficultés et ses aspirations. Aristide Mpako est musicien. Son ambition est de pouvoir retransmettre toutes ses émotions.
Le Mbolé, ce que le Mbolé raconte, c'est que, bon, en fait, d'abord, ce que nous vivons au quotidien, des petits trucs, des petits problèmes de survie et tout, comme vous le savez, dans les sous-quartiers, c'est un peu ça, c'est tout. Le reste, c'est une musique, c'est simplement comme les trucs des autres.
Les amateurs louent une musique 100% camerounaise et décrivent le Mbolé comme le petit-fils du Bikutsi et le neveu du Makossa, un mélange d'influences revendiqué par les artistes, y compris ce documentariste. Timo Léon Luc Boyogeno est producteur exécutif du documentaire Le Mbolé du Kwata.
Que dans le Mbolé, j'ai rencontré des sonorités que j'entendais souvent dans les villages. Quand on va dans les villages, les danses traditionnelles, les consoles, on entend les sonorités là et j'ai retrouvé ça dans le Mbolé. C'est ça qui est attrayant. Ça, c'est original en fait. Ça fait local, ça n'a aucune connotation gabonaise, ivoirienne, occidentale, aucune connotation. C'est là. On utilise les tam-tams, les maracas, les mains qu'on tape et les sujets sont locaux.
Désormais, aucune télévision ni radio ne boude le Mbolé. Mais plus de 20 ans après ses débuts, le genre demeure encore très masculin. Au-delà des conditions de vie, de la précarité, de la drogue, les chanteuses dénoncent dans leurs interprétations de Mbolé les comportements sexistes. Les artistes dépeignent un quotidien cru et une réalité sans phare, et tous ont un souhait commun, celui de continuer à chanter pour partager un message d'espoir et d'encouragement.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Joël Morissin. Un grand merci.